du pécheur qu'il porte en lui et qu'il veut porter en lui. Donc c'est au contraire, je dirais, cet amour de charité fraternelle et de miséricorde qui va mettre une attention particulière à l'égard du misérable et qui va faire que sa douleur va augmenter à cause de cette attention, à cause de cette présence. Oui, mais c'est la tendance, c'est la miséricorde. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas tomber dans le dolorisme. Il ne faut pas tomber dans le dolorisme. C'est la miséricorde. Et il y a les deux dans le Christ. Il y a ce poids d'amour par rapport à la contemplation. Et en même temps, comme les deux commandements sont liés, c'est dans le Christ où les deux commandements sont le plus liés. En nous, étant donné que notre charité est moins parfaite, les deux commandements ont un exercice, vous voyez, je dirais la diversité de l'exercice se fait plus sentir chez quelqu'un de moins parfait que chez quelqu'un de plus parfait. Plus notre charité s'intensifie, plus l'exercice de la contemplation et l'exercice de la vie apostolique et de la miséricorde s'unissent. Mais c'est très vrai qu'à ce point, on voit très bien le dire, on voit très bien comment il le dit. Article 6. Le Christ a-t-il éprouvé de la tristesse? Alors là, c'est la tristesse est par rapport à l'âme intérieure ce que la douleur par rapport au corps. J'ai insisté par rapport au corps à cause de ça. Ça me semble très important dans le monde d'aujourd'hui, ça. Vous voyez? Il semble que le Christ n'a pas éprouvé de la tristesse. Il est dit en effet dans Isaïe à propos du Christ, il ne sera ni triste ni turbulent. Alors, nous lisons en Saint Matthieu cette parole du Seigneur. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors, nous trouvons toujours ce procédé merveilleux de la théologie, ces textes qui se comme des silex qui luttent l'un contre l'autre. Il ne sera ni triste ni turbulent. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Très beau, ces deux textes l'un à côté de l'autre. Et saint Ambroise écrit, comme homme, il a éprouvé de la tristesse, il s'est chargé en effet de ma tristesse, c'est en toute assurance que je parle de la tristesse, moi qui prêche la croix. Et voici la réflexion de saint Thomas, au point de vue théologique. Comme il a été dit précédemment, par une dispensation de la puissance divine. Vous voyez comme saint Thomas insiste. C'est vraiment cette dispensation de la divine, de la puissance divine. La jouissance de la contemplation de Dieu était contenue dans l'esprit du Christ et ne s'écoulant pas aux puissances sensibles, ne dérivant pas aux puissances sensibles, elle n'y supprimait pas la douleur. Or, la tristesse, comme la douleur sensible, se trouve dans l'appétit sensible. Elle a seulement un motif ou un objet différent. L'objet, le motif de la douleur, c'est en effet la lésion perçue par le sens du toucher, comme il arrive lorsqu'on en est blessé. L'objet et le motif de la tristesse, au contraire, c'est un dommage ou un mal appréhendé intérieurement, soit par la raison, soit par l'imagination. Et on n'a pas parlé d'imagination pour la douleur. On en parle pour la tristesse. L'objet et le motif de la tristesse est au contraire, de la tristesse au contraire, c'est un dommage ou un mal appréhendé intérieurement. Il faut souligner très fort cet intérieurement. Il y a toute cette espèce d'intériorité dans la tristesse. Soit par la raison, soit par l'imagination, comme nous l'avons montré dans la seconde partie. C'est ainsi que l'on s'attriste de la perte d'une faveur ou d'une somme d'argent. Ça dépend des mentalités. Or, l'âme du Christ pouvait appréhender intérieurement un objet comme constituant un dommage, soit pour elle-même, telle sa passion et sa mort, soit pour les autres, tels les péchés de ses disciples ou des Juifs qui le mirent à mort. De même donc que le Christ pouvait éprouver une véritable douleur, de même il pouvait éprouver aussi une véritable tristesse. Il y avait cependant, de ce point de vue, entre lui et nous, cette triple différence que nous avons déjà signalée en parlant de la passibilité du Christ en général. C'est ce que je vous soulignais tout à l'heure, hein. C'est que la tristesse pour nous, elle est vécue de l'intérieur, et d'une certaine manière, elle est comme naturelle à notre être. Pas un être humain n'est exempt de la tristesse, mais plus ou moins, vous voyez, il y a des enfants qui connaissent des tristesses trop fortes. Et puis il y en a auxquels on a épargné le plus possible la tristesse. Et il y a une juste mesure, hein, que Dieu permet. Donc nous voyons bien le raisonnement, c'est exactement le même que pour la douleur. Hein. C'est exactement le même, si ce n'est qu'ici, il s'agit de la tristesse, donc de cette vision intérieure que nous avons, de quelque chose qui nous a arrêtés, qui a empêché le développement de notre être. Et on pleure, on est triste, parce que les pleurs expriment... Les pleurs peuvent exprimer la douleur, peuvent exprimer la tristesse. Hein. C'est le signe sensible des deux. Je pleure par tristesse, je pleure par douleur. Et vous le dites spontanément. Hein. « Oh, ça me fait tellement mal que j'en pleure. » Alors, une nature un petit peu aguerrie ne pleure pas pour la douleur, mais pleure pour la tristesse. On pleure sur la tristesse d'un ami qui est affligé, qui est mort. Alors, on pleure, là. C'est la tristesse. Tandis que pour sa propre douleur, on s'est guéri. Oui. Tandis que la tristesse, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur qui nous met dans un état de fragilité, c'est sûr. Donc, l'aspect extérieur de la sensation et l'aspect intérieur, d'intériorité de la tristesse, ce n'est pas une intériorité parfaite, c'est une intériorité psychique, comme nous dirions aujourd'hui la tristesse. Notre psychisme est marqué de la tristesse. Ça, c'est sûr. Notre psychisme est marqué de la tristesse. C'est notre psychisme. Notre corps est marqué par la douleur, et notre psychisme marqué par la tristesse. Parce que nous sommes nés dans le péché originel. Donc il y a un primat, si vous voulez, au point du psychisme, il y a un primat négatif. Alors, voyons tout de suite la réponse à la première objection. C'est la parole d'Isaïe, pratiquement. La tristesse doit être écartée du Christ comme passion parfaite. Tristitia, removetur a Christos secundum passionem perfectam. Il n'y avait en lui qu'un commencement de tristesse. Une propassion. C'est pourquoi il est dit dans Saint Marc, dans Saint Matthieu, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et comme l'écrit Saint Jérôme, autre chose est de s'attrister, autre chose de commencer à s'attrister. Mais n'oublions pas la parole, mon âme est triste jusqu'à la mort, comme propassion. On y reviendra. Parce que ça, c'est important. C'est sûr que Jésus n'avait pas des passions qui, comme nos passions, peuvent nous inhiber complètement. Il y a des gens qui pleurent tellement qu'on ne sait pas quoi faire. Hein. Marie de Magdala. Elle pleure, est une fontaine. Alors, la passion de tristesse, hein, qui fait qu'à ce moment-là, on est toujours pris par la tristesse, on n'en sort pas. Jésus ne restait pas dans la tristesse passion, impossible. Alors, c'est ça que saint Thomas souligne, hein. On va le voir après. Seconde objection, on lit dans les proverbes, « Aucun malheur ne contristera le juste. » Et les stoïciens en donnaient cette raison, que l'on ne s'attriste que de la perte de ses biens. Or, le juste ne regarde comme ses biens propres que la justice et la vertu, et ne saurait les perdre. Autrement, en effet, le juste serait soumis à la fortune s'il s'attristait de la perte des richesses. Mais le Christ fut souverainement juste, le stoïcien parfait, vous voyez, hein. Mais le Christ fut souverainement juste, selon cette parole de Jérémie, voici le nom que l'on donnera, le Seigneur, notre juste. Le Christ ne doit donc pas éprouver de tristesse. Aucun malheur ne contristera le juste. Alors, réponse de saint Thomas. Ainsi que le dit saint Augustin, à la place des trois perturbations de l'âme, qui sont le désir, le plaisir et la crainte, les stoïciens plaçaient dans l'âme du sage trois passions bonnes. À la place du désir, ils mettaient la volonté. À la place du plaisir, ils mettaient la joie. À la place de la crainte, ils mettaient la prudence. Et le tour est joué. Hein ? Vous voyez bien, comment on va supprimer toutes les passions pour passer aux vertus. Alors à ce moment-là, vous faites des êtres secs, comme des triques. Non ? Pas de passion, aucune passion. Ils ont donc la volonté à la place du désir. Ils ont la joie à la place du plaisir. Ils ont la prudence à la place de la crainte. La métamorphose de l'homme en stoïcien. C'est très beau, hein, c'est assez étonnant. Mais à la place de la tristesse, il prétendait qu'il ne pouvait y avoir rien dans l'âme du sage, car la tristesse a pour objet le mal déjà survenu. Or, ils estimaient qu'aucun mal ne peut arriver au sage. Et la raison en est qu'il ne pensait pas qu'il y eût d'autre bien que le bien honnête, qui rend les hommes bons, ni qu'il y eût d'autre mal que le mal déshonnête, qui rend les hommes mauvais. Sans doute, le bien honnête est le plus grand bien de l'homme, et le mal déshonnête est son plus grand mal, car il se rapporte à la raison, qui est la partie principale de son être. Néanmoins, il est pour l'homme des biens secondaires, relatifs à son corps ou aux choses extérieures et qui lui sont utiles. Sous ce rapport, l'âme du sage peut éprouver de la tristesse dans l'appétit sensible, par l'appréhension des maux sensibles, pourvu que cette tristesse ne trouble pas sa raison. En ce sens, on comprend qu'aucun malheur ne contristera le juste, car aucun accident n'est capable de troubler sa raison. Et c'est de cette manière que la tristesse pouvait se trouver dans le Christ à titre de propassion, non à titre de passion. Il a découvert la propassion, saint Thomas, alors il y tient beaucoup. Hein, ça, c'est une des choses très importantes qu'il essaie de saisir. Hein. Contre une certaine vision trop stoïcienne, saint Thomas introduit la passion en disant « Attention, ce n'est pas une passion qui va se développer pleinement et totalement, c'est une passion qui aide ». Le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la volonté. Donc, qui est l'exercice de la charité fraternelle et de la compassion. Si vous êtes un être passionné, vous pourrez davantage manifester votre miséricorde et votre compassion. Parce que quand vous n'êtes pas un être passionné, vous savez, c'est pas commode de manifester la miséricorde. Je veux être miséricordieux. Mais je ne ressens rien. Et celui qui souffre sent tout de suite si vous ne sentez rien. Donc votre miséricorde reste volontaire. Elle n'est pas parfaite. Pour que votre miséricorde soit parfaite, il faut qu'elle passe à travers les passions. Et les passions sont faites pour que la miséricorde soit parfaite. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas que les passions l'emportent. Au-delà de l'intention volontaire. C'est toujours l'équilibre pour les patients. Les patients ne sont pas l'absolu et ne peuvent pas être l'absolu. Et c'est pour ça que saint Thomas parle de propassion. Pour sauver que la passion est bonne, que la passion n'est pas mauvaise, ceci contre les stoïciens, mais en même temps pour sauver que la passion n'est pas l'absolu, qu'il faut la dépasser. Alors, troisième objection. Le philosophe dit que toute tristesse est un mal et qu'il faut la fuir. Mais dans le Christ, il n'y a pas de mal, ni rien qui dût être évité. Il n'y avait donc pas en lui de tristesse. Ce que vous disiez, l'aspect négatif, hein, dans le Christ. Toute tristesse est un mal pénible. Mais elle n'est un mal coupable que lorsqu'elle procède d'une affectivité désordonnée. Aussi saint Augustin écrit-il, si ses affections suivent la droite raison, et si elle en fait usage au temps et au lieu voulu, qui donc oserait les qualifier de passions morbides et vicieuses ? Là encore, nous comprenons pas grosse difficulté. Saint Augustin écrit, la tristesse a pour objet les choses qui nous arrivent contre notre gré. Mais le Christ n'a rien souffert qu'il ne l'ait voulu. Il est dit en effet dans Isaïe, il s'est offert parce qu'il l'a voulu. Je pose mon âge et je la reprends. Le Christ n'a donc pas connu la tristesse. Rien ne s'oppose à ce qu'un objet qui, en lui-même, contrarie la volonté, soit cependant voulu en raison de la fin à laquelle il est ordonné. Ainsi, une médecine amère n'est voulue qu'en vue de la santé. C'est de cette manière que la mort et la passion considérées en elles-mêmes furent pour Jésus, pour le Christ, involontaires et lui causèrent de la tristesse. Ce qui ne lui empêcha pas d'être voulu en vue de la rédemption du genre humain. Donc c'est de montrer tout simplement comment la tristesse peut être assumée par une fin supérieure. Et donc là, vous donnez un sens positif à la tristesse. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, la tristesse et la douleur dans le Christ ont un sens positif, parce qu'ils sont portés tout de suite par l'amour. Tandis qu'en nous, il y a toujours un petit moment, vous savez, un petit moment de déroute, quand on est triste, quand on vient de recevoir la tuile, quand on vient de recevoir quelque chose qui est désagréable pour nous. Il y a tout, presque tout le temps, il y a un petit moment de déroute, c'est-à-dire qu'on s'arrête à cette tristesse. Alors après, on rebondit si on est vertueux et si on est sain. Et alors, on se sert de cette tristesse pour dire, mais oui, c'est merveilleux, c'est pour aller plus loin. Oui. Que, pardon, je...
Chez Aristote, au niveau philosophique, il utilise déjà la tristesse au niveau pédagogique pour éduquer les enfants. En montrant que, quand il dit qu'il faut souffrir toute tristesse, c'est pas très bien. Il y a d'autres endroits où il dit autre chose.
Pas supprimer toute tristesse. On ne peut pas rester le niveau des passions comme tel n'éduque pas. C'est une matière à éducation. Donc, voilà, vous voyez, une fois qu'on a compris l'article précédent, je crois que les deux se tiennent très fort. Évidemment, avec la tristesse, on touche quelque chose de plus spirituel, mais aussi de moins réaliste et de plus imaginaire. C'est très difficile de lutter contre les tempéraments à tendance triste. L'imaginaire s'y met. Très très fort. Et là, on supprime à ce moment-là toute espèce de lutte. La tristesse a fait terriblement. C'est-à-dire que c'est pas bon, hein, ça triste au sol. C'est que de fait, l'amour divin demande que les tristesses soient portées positivement. Alors si on a un tempérament, ça peut arriver, un tempérament porté à la tristesse, porté à voir tout en noir, tempérament pessimiste, il faut lutter contre cette tristesse. Et on peut lutter contre cette tristesse, parce que si on se laisse aller à la tristesse, alors à ce moment-là, on n'a plus aucun ressort. Complètement par terre. Le Christ a-t-il éprouvé de la crainte? Alors là aussi, il serait intéressant, on le fera au terme peut-être si on a le temps, à propos des déficiences, de bien comprendre quelles sont les déficiences que saint Thomas a portées. Examen scientifique. Il n'a pas tout vu. Il a vu des sommets. Il a vu des pointes. À ce point-là, c'est très très intéressant pour comprendre une anthropologie de saint Thomas. Pour comprendre l'anthropologie de saint Thomas, c'est peut-être à l'égard justement des déficiences que nous voyons le mieux. On voit positivement l'anthropologie de saint Thomas avec le point de vue de science. La science, la puissance. On essaiera de comprendre, parce que c'est quand même très intéressant, surtout dans la perspective d'aujourd'hui, hein, où l'anthropologie prend une telle place. Alors de montrer qu'il y a, dans tout le traité de la très sainte Trinité, dans tout le traité de l'incarnation, une anthropologie. La métaphysique est beaucoup plus assumé pour le traité de Dieu et le traité de la très sainte Trinité. Pas beaucoup d'anthropologie. C'est pour ça que quand on n'a plus qu'une théologie qui se sert d'anthropologie, n'est-ce pas, comme la théologie moderne, dont la métaphysique est interrompue, l'anthropologie a remplacé la métaphysique, on ne voit plus que le traité du Christ. Et on ne regarde plus Dieu, on regarde l'homme. On ne regarde plus beaucoup la Sainte Trinité. On ne plus que là. Et on comprend très bien comment un traité de l'incarnation conduit d'une certaine manière à une théologie qui va assumer l'anthropologie. Ça, c'est sûr, dans la mesure même où on doit regarder que devient l'homme dans le Christ. Que devient l'homme quand il est assumé par le Verbe. Le Verbe ne peut rien supprimer d'essentiel à l'homme, mais il le purifie radicalement pour qu'il soit plus homme. Alors, le Christ a-t-il éprouvé de la crainte? On lit dans les psaumes, le juste possédera l'assurance d'un lion. Il sera sans crainte. Mais le Christ fut souverainement juste, il n'a donc pas connu la crainte. On lit dans saint Marc, Jésus commença à éprouver du dégoût et de la frayeur. De même que la tristesse est produite par la connaissance du mal présent. De même la crainte a pour cause l'appréhension d'un mal à venir. Cependant, l'appréhension d'un mal à venir, qui se présente avec une certitude absolue, n'engendre pas la crainte. Le philosophe dit en effet que la crainte suppose toujours quelque espoir d'échapper au mal, car lorsqu'il n'y a aucun espoir, le mal est appréhendé comme s'il était présent. Et alors, il cause plutôt de la tristesse que de la crainte. Ça, c'est sûr. On voit bien ce que ça veut dire. Problème de la tristesse et problème de la crainte. Vous êtes triste devant le mal imminent et présent qui vous écrase et qu'il n'y a plus possibilité d'échapper. Alors vous êtes affaibli. C'est pour ça que ça affaiblit. Tandis que la crainte n'affaiblit pas nécessairement. La crainte peut changer en nous en une espèce de ressort extraordinaire. C'est même très curieux. Ça. Alors psychologiquement, ça serait très intéressant à voir. Ce que saint Thomas souligne là, tout simplement, un petit trait, très simple. Dès lors, la crainte peut être envisagée à deux points de vue. Tout d'abord, on peut considérer seulement que l'appétit sensible répugne à toute lésion corporelle. Par la tristesse, quand la lésion est présente, et par la crainte, quand elle est future. Sous ce rapport, on peut dire que le Christ a éprouvé de la crainte aussi bien que de la tristesse. En second lieu, on peut se placer au point de vue de l'incertitude dans laquelle on est de l'événement futur. C'est ainsi que la nuit, un bruit insolite éveille en nous la crainte. On voit saint Thomas entendant des frères passer dans le dormitorium, hein, alors à la crainte. Ainsi que la nuit, un bruit insolite éveille en nous la crainte. Parce que nous n'en connaissons pas l'origine. En ce sens, comme le dit Damascène, le Christ n'a pas éprouvé de crainte. parce qu'il avait la connaissance. Mais la connaissance diminue la crainte. C'est sûr. Ça diminue la crainte. Ça ne la supprime pas, mais ça la diminue. Ça, c'est évident qu'il y a là quelque chose de très important à voir au point de vue de l'éveil de l'intelligence. Dans la mesure où l'intelligence est éveillée, dans la mesure où l'intelligence se développe, la crainte diminue. Pas la tristesse, mais la crainte. Alors, la fameuse parole, le juste possédera l'assurance d'un lion, il sera sans crainte. Alors saint Thomas souligne, on dit que le juste ne connaît pas la crainte, parce qu'il s'agit ici d'une passion parfaite qui détourne l'homme du bien raisonnable. Or, la crainte ne se trouvait dans le Christ que sous la forme d'une pro-passion. Hein, vous allez le savoir. C'est pourquoi l'Évangile dit que Jésus commença à éprouver du dégoût et de la crainte, signifiant par là, explique saint Jérôme, qu'il s'agit d'une pro-passion. Je ne sais pas si le terme de pro-passion est dans saint Jérôme. Il faut demander ça. Je ferai voir. C'est le point de vue de l'approbation dans le sens d'une passion qui ne va pas jusqu'au bout. Ben, ça, sûrement. Une passion qui ne se développe pas pleinement et totalement. Alors, seconde. Bon, vous voyez, c'est toujours la même idée. Hein. C'est intéressant parce que ça met bien en lumière ce que saint Thomas entend par pro-passion. Dans une analyse scientifique, hein, faut bien voir, accepter la passion, mais montrer que toutes les passions du Christ sont parfaitement assumées par la finalité. Et c'est l'amour qui les assume. Hein. Saint Hilaire écrit, « Je demande à ceux qui le pensent s'il est raisonnable que le Christ ait craint la mort. Lui qui, après avoir détruit chez ses apôtres toute crainte de la mort, les a entraînés à la gloire du martyr. Il n'est donc pas raisonnable d'admettre que le Christ ait éprouvé de la crainte. La crainte de la mort. Saint Hilaire refusa au Christ la crainte comme il lui avait refusé la tristesse. En ce sens que le Christ ne se trouvait pas dans la nécessité d'éprouver de la crainte. Mais en vue de manifester la vérité de sa nature humaine, il a ressenti volontairement de la crainte aussi bien que la tristesse. Là, saint Thomas noie le poisson. Hein. Ça arrive de temps en temps. Très vite dit. Alors que ça aurait été si intéressant. Mais il doit le traiter. Savoir si saint Thomas, si Jésus a eu la crainte de la mort. Alors, troisième objection. La crainte ne semble pas avoir d'autre objet que le mal. Que l'homme ne peut éviter. Dans le Christ, mais le Christ pouvait éviter et le mal pénal qu'il a consenti à subir, et le mal de la faute qui est le fait des autres hommes. Le Christ n'a donc pas éprouvé la crainte. Réponse. Sans doute, le Christ pouvait, par sa puissance divine, éviter les maux qui le menaçaient. Mais du point de vue de l'infirmité de sa chair, il était inévitable, ou du moins difficile à éviter. Et là encore, ce sont des réponses qui ne donnent pas satisfaction plénière, mais qui montrent simplement qu'on ne peut pas nier. Jésus a eu de la crainte. Encore une fois, cette crainte est entièrement assumée par un aspect de la finalité qui fait que ça n'empêche pas au Christ d'atteindre ce pourquoi il est venu. Continuerons la prochaine fois.